Allez, on va se changer les idées en s'évadant dans l'univers scientifique. Cet après-midi, on va parler des Incas qui polluaient déjà l'atmosphère avec des particules de métaux. Ce sera l'un des thèmes de notre club. Et puis, on va s'intéresser également aux moustiques de l'hiver qui n'en finissent pas de proliférer. Vous pouvez nous rejoindre sur la tête au carré à radiofrance.com et puis également sur les réseaux sociaux pour évoquer ces deux sujets avec le mot-clé l'attaque. Et puis, à la une de la science aujourd'hui, la découverte de deux nouvelles exoplanètes potentiellement habitables, car les plus semblable à la Terre qui ait jamais été observée. Comment faut-il interpréter cette découverte? On en parlera dans un instant avec l'astronome Franck Celsi et Philippe Hénarejos de Ciel et Espace, club des Têtes au Carré, qui est réalisé par Violaine Ballet, préparé par Anne-Cécile Perrin, Axel Villard et Fanny Cohen-Moreau. Et puis bien sûr, l'actualité de ce 9 janvier qui peut évidemment intervenir à tout moment sur France Inter.
La Tête au Carré, le club avec Mathieu Vidard sur France Inter.
François de Vleeschhouwer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géologue, vous êtes avec nous en ligne depuis Toulouse. Les Incas, est-ce qu'on peut le dire comme ça, n'étaient pas franchement écolos?
Alors il faut quand même nuancer ces propos-là.
C'est un raccourci.
Les découvertes qu'on a fait récemment, donc on montrait effectivement que les Incas et de manière plus générale les civilisations précolombiennes ont émis des particules métalliques dans l'atmosphère. De là à parler de pollution intense, il faut quand même nuancer ça, mais c'est clair que dans l'hémisphère sud, ce sont dans les premières civilisations à avoir émis des métaux dans l'atmosphère.
Voilà, donc on peut dire qu'ils ont été l'un des premiers pollueurs en fait, de la planète, avec des particules qui ont voyagé sur près de 4000 km. C'est ce qu'on verra donc avec vous dans quelques instants. Et puis pendant ce temps-là, les moustiques s'en donnent à cœur joie, puisqu'ils ont passé les fêtes de fin d'année chez beaucoup d'entre nous. Bonjour Stéphane Robert.
Bonjour.
Vous êtes président fondateur du site Vigilance Moustique et vous avez reçu plusieurs signalements sur la présence de moustiques, semble-t-il. C'est assez inhabituel quand même à cette période de l'année.
Oui, absolument. Alors j'ai un peu scrupule à parler de moustiques avec l'actualité qui court, mais effectivement, on a reçu pas mal de déclarations de cas. C'est assez inhabituel, mais ça devient plus en plus en fait. En hiver, déjà en 2013, on avait constaté des cas comme ça. Marseille, hier, Toulon, Paris aussi. Ouais. C'est de plus en plus récurrent.
Voilà, cette actualité qui peut effectivement paraître futile, mais qui va heureusement, et c'est sa vertu, nous permettre un peu de nous évader avec vous pendant cette heure. On se retrouve d'ici quelques minutes. Allez, à la une de la science aujourd'hui, la découverte de deux exoplanètes jumelles de la Terre.
Attention, tout le monde à l'écoute, attention. Notre destination, Altaïr 4, est à présent visible sur l'écran principal. C'est une planète du type terrestre. La teneur en oxygène est 4,7 fois supérieure à la moyenne terrestre. La pesanteur n'est que de 0,897.
Encore un de ces foutus nouveaux mondes. Sans pinard, sans femme et sans le moindre bistrot, sans rien.
Voilà le télescope Kepler qui a découvert 1000 exoplanètes selon le dernier communiqué de la NASA qui vient d'être publié. Et parmi ces 1000 exoplanètes, eh bien deux seraient particulièrement intéressantes puisqu'elles seraient potentiellement habitables. On va évidemment définir tous ces termes. Bonjour Philippe Hénarejos.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace. Et puis au téléphone, depuis Bordeaux, nous sommes avec Franck Celsi. Bonjour à vous.
Bonjour.
Franck Celsi, astrophysicien, directeur de recherche au CNRS et membre du groupe de travail Kepler sur les planètes habitables. Alors ça tombe très bien. Philippe Hénarejos, on va donner leur nom d'abord à ces deux planètes qui nous intéressent au plus haut point là, cette semaine.
Ah oui, ce n'est pas des noms très poétiques. Non. C'est Kepler 438b et Kepler 442b, oui, respectivement à 1100 années-lumière et un peu plus près, je ne sais plus, bon, 475 années-lumière.
Franck Celsi, ça fait quelques milliards de kilomètres quand même cette histoire.
Hein. Ah oui, c'est pas la porte à côté. Et ça, c'est le problème avec ce télescope spatial. Il observe des étoiles qui sont assez lointaines.
Oui.
Et voilà.
Alors Philippe, deux planètes annoncées partout comme plus que jamais candidates à l'habitabilité. Qu'est-ce qu'elles ont de si particulier? Est-ce qu'il faut prendre des précautions là aussi sur ce type d'annonce?
Oui, il faut toujours en prendre des précautions, mais vous voyez, à mesure que le temps passe, les astronomes progressent. L'étau se resserre dans leur recherche de planètes qui ressemblent à la Terre. Alors, vu l'actualité, je ne sais pas s'il faut chercher une vraie jumelle de la Terre. Mm-hmm. Mais en tout cas, c'est ce que cherchent les astronomes. Et il y a deux choses qui se passent avec cette annonce. D'abord, ces deux planètes qui ont des caractéristiques. Elles se trouvent dans la zone habitable de leur étoile, c'est-à-dire une zone où il ne fait ni trop chaud ni trop froid, mm-hmm, pour que, éventuellement, à leur surface, puisse avoir se trouver de l'eau liquide.
Comme chez nous, donc.
Comme chez nous. Mmh. Et pour cela, il y a une deuxième chose qui se passe en ce moment. Il y a eu un autre papier qui a un petit peu mieux défini qu'est-ce que serait une planète qui ressemblerait bien à la Terre.
Donc il y a des nouveaux critères, en fait.
Il y a des nouveaux critères. C'est-à-dire, c'est pas des nouveaux critères, ils ont été affinés. Et quand on voit ce qui a été écrit dans ce papier, on se rend compte que ces deux planètes colle très bien avec les nouveaux critères. Et pour faire simple, il y en a un de ces critères qui est le diamètre ou le rayon des planètes. Il ne faut pas que celui-ci soit plus de 1,6 fois celui de la Terre, sinon la masse est trop grosse, mm-hmm. ça crée des conditions à la surface qui ne sont pas très propices à la vie, a priori, d'après ce qu'on croit aujourd'hui.
Ouais.
Et ces planètes-là, elles sont dans cette limite. Ça veut dire qu'à la fois en théorie et en recherche, eh bien, on se rapproche de ces planètes qui sont censées ressembler à la Terre. Et puisque c'est sur Terre qu'on connaît le seul exemple de vie, c'est peut-être là-dessus qu'on va essayer d'abord de trouver de la vie.
Ouais. Alors Franck Celsi, c'est vrai qu'on a l'impression que régulièrement, on nous annonce la découverte exceptionnelle de nouvelles exoplanètes. Alors ces deux-là, justement, Kepler 438b et 442b, est-ce qu'elles sont vraiment intéressantes pour vous ?
Alors elles sont très intéressantes, mais c'est surtout, on va dire, la statistique des détections qui va devenir vraiment intéressante. Kepler, c'est un grand relevé. Qui observe énormément d'étoiles, qui découvre beaucoup de planètes et bien sûr qui essaie d'en trouver qui sont très terrestres dans leurs caractéristiques. Alors si on s'attache à des individualités, des planètes comme ça qui sont détectées, il faut faire très attention car hélas, pour les étoiles qui sont observées avec Kepler, on n'a pas de moyen d'avoir une double confirmation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vérifier qu'il s'agit réellement de planètes avec les caractéristiques qu'on leur suppose par un autre moyen d'observation. Donc on ne peut qu'estimer une probabilité que ce soit effectivement des planètes avec les caractéristiques que l'on suppose. Donc si vous avez 90% de chance qu'une de ces deux planètes dont on parle soit effectivement une planète tellurique avec effectivement l'insolation qu'elle a, on a 10% de chance que dans les semaines à venir, dans les mois à venir, on s'aperçoive qu'en fait on s'est trompé, etc. Ce qui est intéressant, c'est d'accumuler, et quand on aura dans quelques mois quelques dizaines de planètes de ce type, les candidats sont là, on est en train de faire des suivis au sol pour vraiment essayer de raffiner la connaissance de leur étoile et de ces systèmes-là, mmh. on pourra raisonner avec quelques dizaines de planètes, et là, sans s'attacher à une planète en particulier, à savoir laquelle reçoit exactement la luminosité terrestre ou à laquelle a exactement le rayon terrestre, la grande question qui était l'objectif de ce télescope spatial Kepler, c'est de savoir quelle est la proportion des étoiles qui ont des planètes potentiellement habitables, c'est-à-dire des planètes qui font à peu près dans une certaine gamme la taille de la Terre et qui sont à peu près dans une certaine gamme à la température de la Terre. Mmh. Et on s'achemine, voilà, pour nous ça fait une énorme différence de savoir s'il n'y a qu'un millième des étoiles de notre galaxie qui a des planètes similaires à la Terre ou s'il y en a 10, 20 ou 30%.
Mais oui, parce que là, on est...
Aujourd'hui, on s'achemine plutôt vers quelque chose qui est supérieur à 10%.
Voilà, parce que là, on est avec ce chiffre de 1000 exoplanètes hein, découvertes par Kepler et donc deux qui seraient vraiment dans ces critères d'habitabilité. Donc 2 sur 1000, c'est pas mal quand même, Philippe Hénarejos.
C'est pas mal, mais Franck Celsi a parfaitement raison de dire que la statistique maintenant sera importante. On parle de 1000 planètes confirmées pour le satellite de Kepler. Il faut savoir qu'en tout, il y en a 4000. Donc il y en a 3000 qui restent à confirmer. Et ce travail pour les confirmer est assez difficile parce que, comme le disait Franck Celsi, il n'y a que les observations de Kepler. On ne peut pas, par exemple, observer ces étoiles en vitesse radiale, qui est une autre technique où on mesure les petits mouvements de l'étoile pour déterminer notamment la masse des planètes. En tout cas, c'est pas possible pour beaucoup d'entre elles. Et donc, le fait de savoir si dans ces 3000 qui restent, il y en a beaucoup ou pas, c'est un travail qui est en cours actuellement et qui est primordial pour savoir effectivement quelle est la proportion de ces planètes terrestres ouais. dans la zone habitable. Là, par exemple, on sait que dans les 3000 qui restent, il y en a au moins déjà 8. Mais qui sont potentiellement des planètes. Il faut vérifier que ce sont bien des planètes et qu'on n'observe pas d'autres effets qui font ressembler ouais. ces astres à des planètes.
Là, Franck Celsi, on est sûr qu'il s'agit de planètes, Kepler 438 et 442. On est bien sur des planètes, là.
Confirmation de candidats qui va porter à quelques dizaines ces planètes qui sont dans la zone habitable de leur étoile. Alors par contre, je pense qu'il ne faut absolument pas laisser supposer que ce sont des jumelles de la Terre. Ce sont des planètes dont on a une estimation du rayon mmh. et c'est tout. Et de, bien sûr, et de la période orbitale, et éventuellement, et du flux de lumière qu'elles reçoivent. Donc on sait à peu près la luminosité qu'elles reçoivent de leur étoile et leur rayon. Mais on ne sait rien de leur composition De leur composition chimique, de est-ce qu'elles possèdent de l'eau en grande quantité ou est-ce qu'elles en sont complètement dénuées, est-ce qu'elles ont des atmosphères. Mm-hmm. Donc, si vous voulez, pour ce qui concerne la possible présence de vie et l'habitabilité, être une petite planète tellurique comme la Terre et recevoir à peu près la même insolation, c'est une condition que l'on pense nécessaire, mais qui n'est sûrement pas suffisante. Ouais. Donc, et on n'est sûrement pas dans des cas de jumelles de la Terre, puisque déjà l'étoile autour de laquelle cette planète tourne est très différente de celle du Soleil. Ce sont des petites étoiles beaucoup plus rouges, et il y a d'autres effets qui vont être très différents de ceux qu'on a dans le système solaire. Ce sont des planètes qui subissent de très forts effets de marée. Tout ça pour dire que il y a des similitudes importantes qui nous permettent d'envisager la possibilité que ces planètes soient habitables, mais on peut déjà d'ores et déjà dire que ce ne sont pas des jumelles du couple Soleil-Terre.
Mais c'est important de repréciser les choses à chaque fois, parce que c'est des mots qu'on voit circuler en permanence hein, au moment de l'annonce justement de ces découvertes, et on comprend que vraiment c'est la prudence et le conditionnel qui prévalent. Hein. Philippe.
Oui, absolument. Il faut vraiment se dire qu'on progresse. L'étau se resserre, comme je le disais tout à l'heure, mais nous sommes encore très loin d'avoir toutes les caractéristiques de ces planètes. Pour cela, il faudra d'autres instruments, savoir s'il y a effectivement une atmosphère, savoir s'il y a de l'eau, faire des spectres. Il faudra d'autres instruments, peut-être les télescopes géants de dans 10 ans. Mais pour l'instant, on a une ou deux caractéristiques et on fait avec ça.
Et on n'a pas de photos, hein, Franck Celsis, toujours d'exoplanètes. Hein.
Mais pas d'exoplanètes de type terrestre. On a des photos d'exoplanètes géantes, si vous voulez, d'analogues de Jupiter.
Ouais.
Donc ça, on a des photos, quelques dizaines d'exoplanètes qui ont été imagées directement. Mmh. Et pour les planètes qui nous intéressent là aujourd'hui, les planètes potentiellement habitables, elles sont trop proches de leur étoile et trop peu lumineuses par rapport à leur étoile pour qu'on puisse les prendre en photo.
Merci beaucoup en tout cas à vous Franck Celsis depuis Bordeaux et à vous Philippe Hénarejos avec Ciel et Espace évidemment qu'on peut retrouver dans les kiosques. Merci pour votre venue à tous les deux. Et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, un nouvel antibiotique, il a été mis au point par une équipe de chercheurs américains et allemands. Les résultats ont été publiés hier dans la revue Nature. Cet antibiotique pourrait être efficace contre des bactéries difficiles à traiter comme le staphylocoque doré. C'est une nouvelle importante parce que les nouvelles découvertes justement de molécules d'antibiotiques sont rares, très rares ces dernières années. Les chercheurs estiment que cette nouvelle molécule ne sera utilisable chez l'homme que dans une dizaine d'années. De l'eau obtenue à partir d'excréments, lundi, le milliardaire Bill Gates a publié sur son blog une vidéo où on le voit boire un verre d'eau fabriqué par une machine appelée Omniprocessor. Cette machine transforme la boue des égouts en eau propre et en électricité. Alors ça n'est encore qu'un prototype, mais cette innovation pourrait être très utile, par exemple, pour les pays sans système de traitement des eaux usées. Et puis enfin, on parlait d'exoplanètes il y a un instant. Toujours dans le ciel, de nouvelles images spectaculaires de la nébuleuse de l'Aigle dévoilée par le télescope Hubble. 20 ans après les premières photos, ces images ont été rendues possibles grâce à une caméra infrarouge installée en 2009 sur le télescope. Elles ont été publiées mercredi par la NASA. Ces photos, elles donnent de nouveaux détails sur cette nébuleuse située à 6500 années-lumière de la Terre. Une photographie qui est à voir sur la page Facebook et sur le compte Twitter de l'émission et dont vous confirmez la beauté, hein, Philippe.
Hein. Oui, et sur le site de Ciel et Espace, nous avons fait une animation qui montre qu'en 20 ans, la nébuleuse a un peu bougé. Allez voir ça, c'est rigolo.
Voilà, et c'est en lien sur la tête au carré. Allez, le club des têtes au carré dans un instant avec les Incas pollueurs et les moustiques de l'hiver.
from planet
Planète Claire avec B-52 sur France Inter.
Le club carré sur France Inter.
Dans le club des têtes au carré cet après-midi, on s'intéresse à la pollution atmosphérique à l'époque des Incas et puis aux moustiques qui ne nous ont pas lâchés de l'hiver avec vos questions et vos messages qui arrivent en ce moment même sur la tête au carré à radiofrance.com et puis également sur les réseaux sociaux, Twitter avec le mot-clé l'attaque. François de Vleschauer, vous êtes donc avec nous en ligne depuis Toulouse. Vous êtes chercheur CNRS au laboratoire Ecolab, ça veut dire écologie fonctionnelle et environnement. Et avec vos collègues, vous venez de montrer que les pollutions atmosphériques sont bien plus anciennes, effectivement, qu'on ne peut l'imaginer. Ce travail a fait l'objet d'une publication dans PLOS ONE. Alors, parlez-nous d'abord de votre travail de géologue. Votre spécialité, ce sont les poussières très anciennes ?
Oui, tout à fait. Donc, en fait, je ne fais plus vraiment de géologie du dur. Je ne vais pas casser des cailloux. Mais ça fait une dizaine d'années que je travaille plutôt sur les dépôts de poussière atmosphérique, en utilisant ce qu'on appelle des archives, donc des sédiments qui sont capables d'enregistrer ces informations, de piéger les poussières atmosphériques au cours du temps. Et moi, j'étudie essentiellement les poussières atmosphériques dans les tourbières.
Alors justement, vos indicateurs vous permettent de remonter jusqu'à quelle époque à peu près ?
Alors en moyenne, les tourbières, elles se sont formées il y a 10 000 ans, donc on couvre 10 à 15 000 ans en fonction des sites étudiés.
Et qu'est-ce que vous essayez de comprendre alors en étudiant ces tourbières de très près, donc la poussière atmosphérique, mais en lien avec les activités humaines principalement ?
Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a évidemment tout ce qui est activité humaine. On regardait comment l'humain, au cours du temps, émis des polluants, des particules métalliques, etc. dans l'atmosphère. Mais on remonte également dans des périodes pré-anthropiques, donc où l'humain n'avait pas d'influence sur son environnement. Et là, on regarde comment les flux de poussière varient au cours du temps. Est-ce que ces flux augmentent dans des périodes climatiques particulières ? Est-ce qu'ils ont des impacts sur l'environnement ou sur le climat lui-même ?
Ouais. Et vous êtes nombreux à faire ça dans le monde ?
Alors, sur les poussières, oui, il y a quand même quelques personnes. Il y a des équipes, des collègues en Pologne, il y a des collègues en Suède, il y a des collègues au Canada. Donc, je veux dire, vraiment, si on se cantonne aux poussières dans les tourbières, on est 3-4 équipes à faire ça.
Ouais. Ouais, alors, étudier ces poussières du passé, puis on va en arriver justement au cas des Incas précisément, qu'est-ce que ça nous permet de dire peut-être aussi de notre époque aujourd'hui ? Est-ce que ça peut vous servir à faire certaines analyses ?
Oui, tout à fait. Donc l'intérêt qu'on porte à ces poussières, je veux dire, pré-anthropiques, donc avant l'impact humain, c'est justement de pouvoir un peu quantifier ce que l'homme a émis au cours du temps. Donc on se rend compte qu'effectivement, c'est non négligeable. On a expédié une quantité assez importante de poussière et d'éléments métalliques dans l'atmosphère. Et même si actuellement on a pris toute une série de mesures pour limiter ces émissions de poussière, ben on n'est pas retourné au niveau naturel, donc au niveau pré-anthropique.
Oui, alors c'est vrai que ces émissions de poussière, on les imagine principalement à partir de l'ère industrielle, hein, donc le 19e siècle. Et puis ben justement, vos travaux montrent qu'on peut remonter bien en amont. Alors il y a maintenant 3 ans, avec votre équipe, vous avez développé un chantier important en Patagonie et en Terre de Feu. Alors pour sonder justement, étudier les poussières piégées dans les tourbières. Alors pourquoi les tourbières justement ? Qu'est-ce que ça donne comme milieu particulier ?
Alors une tourbière, en fait, c'est une accumulation de matière organique, hein, dans un milieu qui est saturé en eau, qui est acide aussi, et qui est en général sans oxygène. Donc en fait, ces caractéristiques permettent à la matière organique, aux végétaux qui forment la tourbière et qui ensuite meurent et se décomposent, de se décomposer très lentement et d'être très bien préservés. Au cours du temps, cette tourbière, cette matière organique, elle s'accumule et elle va piéger les poussières, les particules qui arrivent depuis l'atmosphère. Et de nouveau, les conditions particulières sans oxygène et acides permettent de préserver ces poussières au cours du temps. Donc quand on effectue un sondage, plus on descend en profondeur dans la tourbe, plus on remonte dans le temps et plus on peut obtenir d'informations sur ces poussières atmosphériques et sur les pollutions.
Donc ce sont vraiment des mémoires, des archives hein, extrêmement intéressantes. On parlait des carottes de glace d'ailleurs cette semaine dans l'émission. Est-ce qu'on peut considérer qu'à leur manière, les tourbières sont aussi exactement ces mêmes archives au fond ?
Tout à fait. C'est, entre nous, c'est ce qu'on appelle les carottes de glace vertes.
Et voilà.
Alors, il y a quand même une différence à faire, c'est que les carottes de glace, avec les carottes de glace, on peut remonter beaucoup plus loin dans le temps, de l'ordre du million d'années.
Hein, oui.
Alors que dans les tourbières, on se cantonne aux 10, 15 000 dernières années.
On en trouve beaucoup sur Terre, justement, des milieux avec tourbières.
Oui, justement. Donc, c'est le deuxième avantage par rapport aux carottes de glace. C'est la répartition géographique des tourbières. Donc, partout dans l'hémisphère nord, il y en a dans les milieux boréaux, on va dire, donc à partir du nord de la France, la Scandinavie, la Sibérie, tout le Canada est couvert de tourbières. Et puis dans l'hémisphère sud, il y en a dans les régions un peu tropicales, dans les forêts tropicales, et puis dans les régions montagneuses, donc typiquement en Patagonie, dans les Andes, il y en a aussi.
Alors François de Vleschauer, parlez-nous des Incas et de votre découverte quand même, parce que là,
comme souvent, comme parfois dans les découvertes, on s'attendait pas trop à trouver ça.
Oui.
Donc la particularité de ces tourbières de terre de feu, c'est qu'en terre de feu, il n'y a pas eu d'activité humaine jusqu'à des périodes assez récentes. Donc les activités humaines qui ont commencé en terre de feu, c'est essentiellement la ruée vers l'or et la ruée vers le charbon il y a 150 ans, on va dire.
Mm-hmm.
Donc ce sont des milieux qui sont très très naturels, qui n'ont pas été fortement impactés par l'humain. Quand on a pris ces sondages et en mesurant les métaux et en les comparant avec des éléments non métalliques, on a remarqué qu'en fait, on pouvait reconstituer le cours des civilisations précolombiennes tout au long de notre sondage, parce que les rapports de ces éléments métalliques par rapport à des éléments non métalliques changeaient, et à chaque changement, à chaque augmentation de ces rapports, correspondait à une civilisation précolombienne. Donc c'était une découverte assez étonnante, parce qu'on ne pensait pas pouvoir tracer ce genre d'activité métallurgique si loin.
Alors justement, elles ont eu lieu où exactement ces activités métallurgiques ?
Alors les activités métallurgiques, c'est les civilisations précolombiennes, donc c'est les Incas, Nazca, Chavin, Tiwanaku, donc c'est plutôt centré sur la partie centre-nord des Andes, donc le Pérou, la Bolivie, l'extrême nord de l'Argentine.
Donc là, votre découverte, géographiquement, est très éloignée du site d'activité des Incas ?
Tout à fait, oui, elle est honnête, plusieurs milliers de kilomètres, oui.
Donc, c'est ce qui vous permet de dire que déjà à cette époque, au fond, les Incas, de par leurs activités, ont émis donc ces pollutions atmosphériques et que ces pollutions se sont transportées donc sur de grandes distances.
Voilà, tout à fait. Donc, ils ont émis ces éléments qui sont toxiques pour l'environnement sur des très grandes distances. Et ça, c'est vraiment une découverte importante, puisqu'on n'avait jamais montré que des civilisations précolombiennes en Amérique du Sud avaient pu émettre ces particules, et surtout que ces particules pouvaient être transportées sur des grandes distances. Après, il faut nuancer le mot pollution. Il faut bien comprendre qu'en terre de feu, ces particules arrivent dans des quantités infimes et n'ont pas du tout d'impact sur leur environnement.
Oui.
Les concentrations sont beaucoup trop faibles, évidemment.
Alors,
mais on peut tout de même les tracer.
Ouais. Alors cette histoire, elle s'inscrit sur combien de décennies, à peu près ?
Pardon, sur combien de décennies l'histoire se... Cette histoire, on remonte depuis les Incas, donc on est sur 4000 ans, là.
Mais sur cette activité, en tout cas, et sur ses répercussions, c'est ce que je voulais vous dire.
Ah, pardon, donc les répercussions, il n'y en a pas sur l'environnement.
Mmh.
Donc les Incas et les civilisations précolombiennes, ça couvre une période d'environ 2000 ans, et avant que les Européens arrivent et colonisent l'Amérique du Sud.
Vous êtes obligé d'étudier également les vents. Comment vous faites pour cela exactement, pour pouvoir retracer là aussi cette histoire, parce qu'il n'y a pas d'archives là sur les vents.
Non, c'est très compliqué, et c'est d'ailleurs un des buts ultimes de nos recherches. Évidemment, si on peut arriver à quantifier les flux de poussière au cours du temps et à voir d'où les poussières viennent, eh bien on peut espérer voir et comprendre quels étaient les vents dominants dans le passé. Alors là, ce qu'on a fait, c'est une modélisation des circulations atmosphériques, puisque il faut savoir qu'en Amérique du Sud, les vents dominants, ils viennent de l'ouest, donc ils frappent la côte chilienne depuis l'océan Pacifique. Et donc la majorité des particules qui sont érodées et qui sont transportées par les courants atmosphériques en Amérique du Sud, eh bien, ils sont déflectés vers l'est et se retrouvent dans l'océan Atlantique. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris on a pris les données météorologiques des 50 dernières années, et on a fait une modélisation de la probabilité de trajectoire des particules sur l'ensemble de l'Amérique du Sud. Et on a montré qu'effectivement, dans la majorité des cas, les vents viennent d'ouest, les particules sont transportées vers l'est, mais que dans certains cas, environ dans 5 à 10% des cas, il y a des trajectoires qui vont depuis le nord des Andes jusqu'en Terre de Feu, donc qui rendent possible cette dispersion de particules métalliques.
Donc là, c'est étonnant parce que grâce aux mathématiques et aux modélisations, vous arrivez justement à retracer la trajectoire de ces vents, hein, effectivement. Où est-ce que vous partez prochainement? Ce sera quoi votre prochaine expédition, François Berchava?
Non, je ne pars pas prochainement parce que je reviens d'une très grosse mission dans les terres australes et antarctiques françaises sur l'île d'Amsterdam, où on a fondé les tourbières avec un peu les mêmes objectifs scientifiques. Donc là, je vais un peu me poser à Toulouse pendant quelques temps.
Et vous allez décortiquer vos résultats?
Oui, tout à fait. Ben là, les sondages sont en route, donc ça va prendre quelques années encore avant d'avoir les résultats et de pouvoir les publier.
Voilà, ça fera l'objet d'autres publications. Peut-être qu'on en reparlera dans quelques années, en tout cas. Merci beaucoup pour ces explications et puis donc cette surprise quand même, effectivement, sur l'émission de ces pollutions atmosphériques par les Incas. François de Vleschauer pour cette publication donc, qui est parue il y a quelques temps dans PLOS ONE. Merci à vous d'être passé cet après-midi dans le club de la Tête au Carré. À bientôt, bon week-end. Oui.
À bientôt, bon week-end.
Formidable, Asaf Avidan, que vous pourrez suivre en concert ce soir sur France Inter en direct. Il sera au 104 à la Maison de la Radio pour un concert exceptionnel qui sera présenté par Rebecca Manzoni entre 21h et 23h et retransmis donc ce soir sur notre antenne.
La Tête au Carré, le club sur France Inter.
Des moustiques en hiver. Stéphane Robert, vous êtes avec nous en ligne. Vous êtes président fondateur du site Vigilance Moustique et de nombreux témoignages confirment que le moustique sévit toujours dans notre pays, malgré quand même quelques grands froids de ce mois de janvier. Comment ces insectes amateurs de chaleur parviennent à survivre aux vagues de froid? C'est évidemment la question que je vais vous poser. Alors Stéphane Robert, on a aussi des auditeurs qui confirment qu'ils ont des moustiques chez eux en ce moment. Claude, deux moustiques hier, il habite à Noyon dans l'Oise. Ça peut vous servir pour votre site de vigilance. Et puis également Marie-Geneviève, qui est avec nous en Loire-Atlantique. Des moustiques en hiver, elle nous dit que c'est très courant d'ailleurs chez nous en Loire-Atlantique, entre la Loire, le lac de Grandlieu et les différents marais. On en a toute l'année, évidemment en plus ou moins grand nombre, le pic étant en général au mois d'août. C'est une surprise là pour vous vraiment ou pas, l'ampleur du phénomène?
Non, enfin c'est inhabituel, mais c'est de plus en plus récurrent. C'est-à-dire qu'on voit bien que... avec les saisons qui sont de plus en plus chaudes dans nos zones tempérées, les moustiques, les espèces de moustiques qu'on trouve en France sont de plus en plus adaptables à nos conditions météorologiques, même si ce sont des espèces tropicales. Et notre site existe depuis près de 3 ans. Et les deux saisons dernières, c'est-à-dire fin 2013 et fin 2014, on a constaté, dans les deux cas, des déclarations de cas, même en hiver. Donc c'est un phénomène de plus en plus récurrent, très urbain, parce que c'est en milieu urbain qu'on retrouve, le moustique va trouver le plus facilement des bonnes conditions pour survivre à l'hiver. Mais c'est pas vraiment une surprise. De toute façon, on voit bien que la population des moustiques en France se multiplie, se développe, été comme hiver, c'est un phénomène qu'on observe. Et donc, à la fois c'est inhabituel et à la fois ça ne nous surprend pas.
Et pourquoi vous avez mis au point d'ailleurs votre site de vigilance moustique il y a 3 ans maintenant?
Alors, nous, on est fabricants d'une gamme d'anti-moustiques. Je ne sais pas si je peux dire la marque à l'antenne.
Non, pas franchement, on peut s'en passer.
Voilà, pas franchement, mais en tout cas, on a constaté qu'il y avait un énorme besoin d'information du grand public sur les moustiques. On adore parler des moustiques l'été et c'est un sujet de plus en plus préoccupant. Ouais. Parce qu'il y a des espèces qui se développent en France qui sont potentiellement vecteurs de virus comme la dengue et le chikungunya ou maintenant le Zika. Et donc, il y a un besoin d'information sur ce sujet. Et quand vous cherchiez, avant que Vigilance Moustique n'existe, n'est-ce pas, quand vous cherchiez l'information sur le moustique, eh ben, elle était assez peu accessible, très dispersée, dans des endroits pas franchement bien exposés. Donc on a créé ce site, un, pour rassembler toute l'information actualisée sur le moustique, et deux, pour rassembler, justement, pour collecter des déclarations de cas, pour essayer de modéliser ce qu'on appelle la saison des moustiques, c'est-à-dire à partir de quel moment dans l'année ils apparaissent en grand nombre, ils commencent à proliférer, et en particulier aider au dépistage du moustique tigre, dont on sait qu'il est en train de progresser dans toute la France. Et plus on a de déclarations de cas qui attestent de sa présence, mieux on surveille cette espèce-là. Et la particularité de notre site, donc on reçoit tout un tas de déclarations de cas, la particularité de Vigilance Moustique, c'est que les cas, on les valide auprès de partenaires qui sont sur terrain. La plupart du temps, ce sont des pharmacies sentinelles. Et quand on nous signale une prolifération inhabituelle dans une ville ou dans un quartier, on va appeler la pharmacie partenaire. Et si la déclaration est validée, eh bien, on la publie sur notre carte.
Alors, qu'est-ce qui fait justement que ces moustiques s'adaptent bien quand même aux conditions de froid, malgré tout en hiver, même si effectivement les températures changent, on voit quand même une adaptabilité de ces insectes.
Absolument. Non, mais ça c'est une certitude. Il y a une adaptabilité des espèces. Après, en milieu urbain, le moustique, pour survivre à l'hiver, il y a deux solutions. Ou bien il reste dans un milieu chaud, dans un appartement. Et si donc une femelle va continuer à pouvoir piquer un petit peu un être humain, donc avoir un petit refil de sang chaud, si la femelle trouve une eau stagnante quelque part, dans une soucoupe, une coupelle, sous un pot, elle va pouvoir continuer à se reproduire, et donc là, elle va continuer à se reproduire comme si on était en été. Maintenant, s'il n'y a pas d'eau, comme il fait chaud dans l'appartement, elle va mourir de sa belle mort. À un moment donné, elle va mourir. Maintenant, il y a un autre processus quand il fait froid, c'est le processus d'hibernation. Alors, il faut pas, s'il fait moins de 0, le moustique en général, il va pas résister. Si le corps baisse en dessous de 0, il va mourir. Mais en gros, dans les températures froides, mais quand même dans un espace protégé, par exemple une cave, un grenier, un endroit un peu, vous voyez, qui est pas chauffé, mais qui est pas non plus dans les grands froids de la rue, le moustique ou la moustique va hiberner. Et elle peut résister plusieurs mois.
Mais ça vit combien de temps, un moustique ?
Avant de retrouver, donc elle est en état de léthargie, puis elle attend le printemps suivant pour revivre, donc en adulte si c'est un moustique adulte, mais pour les larves, c'est exactement la même chose. Ouais. Et même des espèces de larves de moustiques qui sont pondues sur des milieux humides, c'est les Aedes, sur milieu humide, et le moustique, la larve va pouvoir rester plusieurs années à l'état de larve, en attendant qu'il y ait une nouvelle inondation qui la recouvre, et avec l'eau, la larve va se transformer en nymphe, puis en moustique adulte. Donc un moustique, ça peut, on dit que ça vit quelques semaines normalement, mais ça peut vivre plusieurs mois l'hiver, voire plusieurs années.
Ouais. Est-ce que le moustique fait de la graisse aussi pendant l'hiver ou pas ?
Oui, enfin avant il accumule la graisse pour bien survivre à l'hiver, justement. Nous, on doit maintenir notre corps à une température importante, donc on mange l'hiver et on vit, etc. Lui, le moustique, quand la température baisse, bah, il se met en état léthargique. Donc il consomme beaucoup moins d'énergie, mais il a accumulé avant cette période-là de la graisse pour pouvoir avoir le minimum d'énergie nécessaire pour survivre.
Stéphane Robert, ces moustiques qui nous piquent, ce sont des femelles. Le sang, c'est leur repas principal, justement. Elles ont besoin de nous piquer pour se nourrir et pour vivre.
Alors, le sang, c'est ce qui permet de décupler la capacité de la femelle pour pondre. Elle peut pondre sans repas humain, mais à ce moment-là, elle pondra très peu d'œufs. Bon, elle adore évidemment le sang humain comme un repas qui multiplie sa capacité à pondre. Et du coup, là, elle peut pondre 200 œufs à chaque ponte, hein, et elle peut pondre plusieurs fois pendant sa vie.
Est-ce qu'elle a d'autres mets à son menu ou c'est vraiment exclusivement sanguin ?
Non, alors elle peut se nourrir de matière organique, sinon hein, elle peut se nourrir dans le milieu naturel. Mais son repas de prédilection, ça va être des repas, enfin du sang. Alors ça peut être du sang humain, mais c'est du sang d'animaux aussi à sang chaud. Hein.
Ouais. Donc Stéphane Robert, l'impact du changement climatique et donc de la température hein, de cette année, comme 2014 qui a été l'année la plus chaude, on peut vraiment faire une courbe parallèle avec l'augmentation de ces moustiques ?
L'augmentation, il n'y a pas de données quantitatives, de statistiques précises sur la quantité de moustiques en France, c'est totalement impossible. L'augmentation de quoi ? C'est vrai qu'en 2014, on a vu qu'ils étaient arrivés très tôt, en mars, alors qu'en 2013, ils étaient arrivés plutôt très tard, plutôt début juin.
Ouais.
Donc, ils sont arrivés très tôt. En revanche, on a eu pas forcément énormément pendant l'été, parce qu'on a eu un été pas très chaud. Il n'y a pas eu une quantité de pics comme en 2013, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des infestations invraisemblables après les inondations dans l'est de la France, dans le sud-ouest. Donc en 2014, ça a été plutôt calme pendant l'été. Et en revanche, bah, parce que l'hiver a été doux, on a constaté aussi que les moustiques sont restés nos compagnons jusqu'à maintenant.
Ouais.
C'est vrai. Donc c'est directement lié aux températures.
Ouais. Voilà, Christine nous confirme, j'ai des moustiques tigres en ce moment sur Méréville dans l'Essonne, ici à Dieppe, Nieppe dans le Nord, nous dit un autre auditeur. Les moustiques ont la forme des nuages certains soirs, les chauves-souris se régalent. Moustiques tigres dans l'Essonne, ça vous paraît normal, Stéphane Robert ?
Alors non, d'abord la présence officielle de moustiques tigres dans un département, elle est déclarée par des organismes publics qui chaque année font la carte des moustiques du moustique tigre en France.
Mmh.
Donc nous, par exemple, quand on a une déclaration de moustique tigre, on la fait valider par un organisme, une entente interdépartementale de démoustication,
ouais.
Et qui ensuite la centralise dans la base de données de la DGS. Et puis l'année suivante, il déclare oui, effectivement, il y a des moustiques tigres dans tel et tel département.
Donc ça reste effectivement.
Il y a pas mal de gens qui croient voir un moustique tigre. Alors ils nous déclarent des cas.
Et ça reste à préciser.
Photos,
hein.
Quand on a les photos, on les fait aussi certifier.
Ouais.
Bon, il y a très souvent, ce ne sont
très
pas
bien.
Des moustiques tigres. Mais il y a cette crainte qui fait un peu inventer des choses.
Et on termine là-dessus, Stéphane Robert. Ah bon, on termine là-dessus. Je suis désolé parce qu'on est déjà au-delà du temps imparti. Je suis désolé. Et puis l'actualité nous attend dans un instant. Merci pour ces explications. Et puis je rappelle que vous êtes fondateur de ce site Vigilance Moustique.